Décryptage. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Emmanuel Macron au chevet ce mardi du sport français, du sport professionnel et amateur. Le chef de l'État s'est entretenu par visioconférence ce matin avec plusieurs représentants du secteur pour tenter d'apporter des réponses à la crise économique qui frappe de plein fouet le sport en France. C'est l'un des secteurs d'ailleurs les plus touchés, un secteur qui s'estime laissé pour compte. Est-ce que c'est le cas? C'est une des questions à laquelle on va tenter de répondre. Et puis, nous allons décrypter les annonces faites aujourd'hui par le président français. Est-ce qu'elles sont d'augure à dénouer cette crise? Et en premier lieu, celle qui touche le sport amateur qui enregistre une baisse drastique du nombre de licenciés dans ces clubs. Cela pose la question économique mais également sociale, car c'est également la mission du sport. Comment maintenir ce lien social alors qu'avec la crise, les bénévoles qui animent ces clubs sont aujourd'hui menacés? On va aborder tous ces sujets avec notre invité. Et il s'agit de Pierre Rondeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire des annonces du chef de l'État? D'abord l'enveloppe d'un montant global de 400 millions d'euros, parce que l'argent, quand même, on va beaucoup en parler au cours de cette émission, c'est le nerf de la guerre, en premier lieu pour le sport amateur. Est-ce que cette somme, donc de 400 millions d'euros, répond aux attentes du secteur?
Alors, on devrait d'abord dire qu'heureusement que cette somme a été présentée et a été fixée, donc de 400 millions d'euros. On pourrait tout à fait parfaitement dire qu'elle n'est pas suffisante, que comparé au plan de relance et de soutien en faveur de la culture, on est très loin du compte. Pour la culture, c'est 2 milliards d'euros et le sport, c'est 400 millions d'euros. Pourrais-je dire seulement 400 millions d'euros? Mais si on veut voir le verre à moitié plein, on va tout simplement considérer que heureusement que cette somme, cet argent, cet investissement, ce plan de soutien, ce plan de relance a lieu, parce que le sport amateur, le sport professionnel, le sport qui se pratique, le sport qui se regarde en France vit une situation actuellement extrêmement difficile. Donc heureusement que enfin Emmanuel Macron ait accueilli les acteurs du sport et les a écoutés et entendu leurs doléances et activé justement le levier de la relance publique pour soutenir ce secteur en perdition.
Alors les professionnels du secteur qui réclamaient justement un plan d'urgence spécifique, il est là?
Enfin, voilà, enfin il est là, enfin. Alors il a fallu attendre un an avant.
Est-ce qu'il est à la hauteur des attentes, c'est surtout ça?
Non, justement, puisque encore une fois, je le répète, si on veut commencer à chiffrer les pertes économiques totales du Covid, de la Covid et du confinement et de la crise économique sur le sport, sport pro, sport amateur, on est au-delà du milliard. Mmh. On est au-delà du milliard. Par exemple, je prends simplement les pertes économiques pour les salles de sport, qui sont seulement le secteur spécifique des salles de sport, des salles de musculation. Les pertes sont chiffrées déjà à 1 milliard d'euros. Mmh. Le secteur footballistique, c'est 1 milliard d'euros. Là, très récemment, le Comité National Olympique du Sport Français, le CNOSF, a enquêté auprès de 35 000 clubs en France, sur 140 000. Et sur ces 35 000 clubs en France, on avait annoncé une perte sèche de 376 millions d'euros. Mmh. Donc, étalé sur 140, on est au-delà du milliard. Mmh. Donc, on est vraiment sur des pertes très importantes. Donc, on aurait tendance à dire que finalement, 400 millions d'euros, est-ce bien suffisant? D'autant plus que, je le répète, la culture, c'est un plan de relance et un plan de soutien de 2 milliards d'euros.
Alors on va évoquer justement ces différences qui peuvent être jalousées parfois par les professionnels du secteur, mais dans le détail, ces 400 millions d'euros, on parle beaucoup chiffres, mais on va décrypter évidemment en grande partie dans cette émission les annonces ce matin du chef de l'État, parce que c'est rare que le président s'exprime il l'avait fait justement pour le monde de la culture, qu'il s'exprime avec pour faire des annonces justement en faveur d'un secteur bien précis, comme ça a été le cas ce matin pour le monde du sport français. Donc dans les 400 millions d'euros, il y a notamment 100 millions d'euros pour compenser la perte de la billetterie sur le dernier trimestre. Il y a des exonérations de charges à hauteur de 105 millions d'euros. Et puis les salles de sport qui sont fermées mais qui continuent à payer et des loyers, le plafond des aides va être relevé au-dessus de 10 000 euros. Ça vous paraît cohérent, cette répartition des annonces, cette répartition des sommes allouées?
Alors, cohérent, je serais bien en peine de vous dire que c'est juste ou injuste. Moi, je retiens simplement qu'il a lieu, le plan d'aide. Maintenant, encore une fois, je le répète, je trouve insuffisant et surtout incertain vis-à-vis de l'avenir. Par exemple, je vous reprends, vous parlez d'une exonération de charges pour la période septembre, octobre, novembre. Effectivement, mais si demain la crise sanitaire se maintient et le confinement se maintient en janvier, février, mars, les entreprises du sport, les salles de sport, les gymnases, les clubs, les boîtes privées demanderont encore cette forme d'exonération. Or, pour l'instant, ce n'est pas chiffré et ce n'est pas annoncé pour la période 2021. Les acteurs du sport auraient demandé à ce que l'étalement de l'exonération soit sur toute la saison 2020-2021.
On est sur un projet à court terme.
On est exactement sur un projet à court terme. Mmh. On est sur le temps court finalement, mmh, sur septembre, octobre, novembre. Mais le problème aujourd'hui de la crise sanitaire et économique, c'est l'incertitude qui touche les acteurs. Que ce soit les petits commerces ou les acteurs du sport, personne ne sait combien de temps ça va durer. Comment peuvent-ils anticiper la suite et l'avenir sans savoir si demain, mmh, l'État sera présent pour les aider? Comment peuvent-ils savoir? Par exemple, on parle de la probable réouverture des stades de clubs professionnels en janvier, voire la réouverture des gymnases en période de Noël pour les enfants, à la seule condition que la situation sanitaire s'améliore. Mais comment peut-on savoir au mois de novembre quelle sera la situation sanitaire en décembre, janvier, février, mars?
Évidemment, l'État non plus ne le sait pas, donc compliqué aussi de faire des annonces à long terme.
Exactement.
Puisque, évidemment, avec cette pandémie, on navigue à court terme.
Exactement, mais peut-être qu'Emmanuel Macron peut-être, encore une fois, mm-hmm, fait mieux, bien sûr,
par rapport aux attentes.
Exactement, anticiper la situation et provisionner au cas par cas en fonction de la situation, en se disant que si la crise continue, je vous assurerai qu'en janvier, février, mars, vous ayez cette forme d'exonération. Là, pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. Donc si demain, alors effectivement, on peut parfaitement considérer que c'est une bonne chose pour le secteur sportif et que le mois de septembre, octobre, novembre soit sauvé, soit sauvegardé. Mais si demain la crise continue et on n'a pas provisionné justement le budget pour sauver le secteur sportif en janvier, février, mars, comment feront les clubs pour survivre à ce moment-là?
Il y aura peut-être un autre plan d'ici là.
Et est-ce qu'il faudra de nouveau envisager une visioconférence avec Emmanuel Macron et de nouveau envisager une émission ce soir pour parler des plans de relance d'Emmanuel Macron pour la période janvier, février, mars?
C'est pas ce que le monde de la culture a eu en tout cas, alors qu'il y a eu effectivement un plan il y a plusieurs mois. Donc effectivement,
mais de 2 milliards d'euros.
Ça ne prête pas à l'optimisme. On va écouter une réaction d'un professionnel du secteur à ce plan justement d'aide annoncé aujourd'hui par Emmanuel Macron. C'est le propriétaire des salles de sport Kensport. Il s'appelle Arthur Benzoquin et il dénonce une mauvaise répartition des aides.
Moi, j'ai 1 million d'euros de loyer par mois. Je vais être fermé 8 mois cette année. Je fais 0 euro de chiffre d'affaires. Le gouvernement est incapable. On peut leur dire dans toutes les langues de légiférer sur le fait d'abandonner 100% des loyers. Les bailleurs ont eu des 12 mois de décalage bancaire, des PGE. Donc en fait, aujourd'hui, on se retrouve où on aide la rente, on protège la rente et on sacrifie le travail. C'est ça la définition de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ça, c'est une catastrophe et elle est là, l'injustice.
Voilà, donc des bailleurs qui sont aidés mais pas les locataires, donc les salles de sport. D'une manière générale, Pierre Rondeau, selon vous, est-ce que cela illustre cette idée que vous défendiez et que les professionnels du secteur, que le sport est finalement un laissé pour compte dans cette crise? Je dis que vous la défendez parce que vous disiez que la culture bénéficiait davantage de moyens. Et ça aussi, c'est discutable. Je peux avancer 2 chiffres.
Bien sûr.
Tony Parker, effectivement, l'ancien meneur de l'équipe de France de basket, a avancé un chiffre qui correspond à celui que vous avez également avancé. 2 milliards pour la culture. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, affirme qu'au total, les aides, l'argent, les prêts, ce sont 4 milliards d'euros d'aides qui ont été débloqués pour le sport français.
Parce qu'elle intègre ici les plans de relance qui ont eu lieu pendant le confinement, avec les exonérations de charges, le chômage partiel accordé à toutes les entreprises du secteur sportif. Modalités qui ont aussi été accordées au secteur de la culture. Donc la culture, c'est 2 milliards plus les mesures de chômage partiel et d'exonération de charges qui ont lieu pendant le confinement. Donc si on fait aussi le même calcul que Madame Roxana Maracineanu, on aboutit sur le soutien en faveur de la culture à 2 milliards de plans de relance plus 4 milliards de soutien via le chômage partiel. Donc on est bien au-dessus de ce que le sport pourrait lui obtenir et de ce que la culture a obtenu. Donc encore une fois, ça, à mon sens, ça fait partie, alors peut-être d'une certaine manière, d'une forme de mépris vis-à-vis du monde du sport par rapport à la culture, puisque je le rappelle, d'un point de vue strictement économique, le poids économique de la culture est équivalent au poids économique du sport. On est aux alentours de 2% du PIB. On est, pour le secteur sportif, à 480 000 emplois créés par an et aux alentours de 500 000 pour la culture. C'est quasiment équivalent.
Et pourtant, la culture s'estime mal lotie aujourd'hui dans cette crise. Il y a les librairies qui se font entendre.
Bien évidemment.
Mais alors, vous avez l'impression qu'effectivement, le monde sportif en France est laissé pour compte. Souvent a été cité la dernière allocution d'Emmanuel Macron annonçant le reconfinement en France. au cours de laquelle le mot sport n'a pas du tout été prononcé. C'est symbolique selon vous ?
Alors, à mon sens, à ce niveau-là, au niveau du discours, que le mot sport ne soit pas cité une seule fois, ça reste symbolique et c'est pas dommageable. Si on veut, moi, ce que je veux, c'est les faits et les actes. Qu'il n'ait pas dit sport ou qu'il n'ait pas dit quelques mots dans son discours, peu importe, du moins qu'il agisse. Et encore une fois, je le répète, je ne veux pas opposer culture et sport. Les deux secteurs doivent être aidés, autant les libraires que les gérants de salles de sport. Simplement, je mets à la place des gérants de salles de sport, c'est-à-dire qu'effectivement, on l'a entendu avec votre intervenant, le confinement et les fermetures ont été très impactantes pour eux, avec des fermetures de plus de 8 mois. Alors qu'encore une fois, je le répète, le plan de relance parle d'une exonération de loyer pour la période de septembre, octobre, novembre. Mais quid du début d'année, quid de l'été dernier, quid de tous les événements qui ont eu lieu depuis le confinement. Donc si vous voulez, si on veut voir le verre à moitié plein, on considère que heureusement que ce plan de relance a lieu, et merci au gouvernement d'avoir pu envisager une telle solution pour éviter la catastrophe. Mais si on veut voir le verre à moitié vide, on constate simplement que ce n'est pas suffisant. Après, on pourrait dire aussi comment trouver l'argent et comment trouver justement les sources de financement à de telles relances aussi ambitieuses que celles en faveur de la culture, parce que ça coûte très cher aussi. Et la question justement, c'est de savoir où on trouve l'argent et comment va-t-on pouvoir financer ces projets.
Au-delà de l'enjeu économique, évidemment, c'est le premier enjeu. Emmanuel Macron a aussi annoncé qu'il souhaitait la reprise au mois de décembre des activités sportives pour les jeunes en club. C'est alors évidemment la priorité, sans doute, c'est aider les clubs économiquement et des secteurs qui est aujourd'hui sinistré, mais aussi le fait d'aider les enfants, les jeunes à reprendre une activité physique qui est essentielle à leur développement. C'est aussi une priorité. Ça, c'est une bonne décision. Enfin, une décision. Il a dit qu'il le souhaitait le faire. C'est une décision, une annonce importante du chef de l'État.
C'est une annonce qui reste conditionnée à l'évolution de la situation sanitaire. Mais on espère, en tout cas, que la situation sanitaire permettra d'aboutir à la rouverture au mois de décembre et à Noël. Et c'est sûr que le sport, dans son ensemble, permet à la fois un vecteur de socialisation et de fraternité à l'enfance ou même à l'âge adulte, permet aussi un vecteur de lutte contre le mal-être, contre l'obésité, en faveur de l'intégration, donc il y a beaucoup de facteurs autres que purement économiques. Et dès l'enfance, c'est sûr que c'est une très bonne chose à soutenir la pratique sportive. Et de la même manière, une chose très importante, on l'a constaté d'ailleurs pendant le confinement, c'est que malgré la fermeture des salles de sport, des gymnases, des piscines ou autres, on a constaté que la pratique sportive des Français avait augmenté depuis le confinement, que ça soit pour les enfants comme pour les adultes. Il y avait une augmentation de la pratique, mais malheureusement de la pratique individualisée, la pratique autonome.
Chez soi.
Et oui, chez soi. Alors même maintenant, on sait que les jeunes, par exemple, si vous voulez, la première pratique de loisirs chez les jeunes, c'est les jeux vidéo. Et il y a beaucoup de jeux vidéo, de plus en plus de jeux vidéo qui permettent une activité physique et sportive en jouant aux jeux vidéo. Et il y en a de plus en plus qui pratiquent. C'est très bien au niveau de la lutte contre en faveur de la santé, contre l'obésité et autres. Mais le problème, c'est au niveau de la fidélisation. Comment derrière pouvoir maintenir un soutien de licenciés, de pratiquants officiels en club, si les gens, enfants comme adultes, ont pris l'habitude pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, pendant une année entière, à pratiquer un sport chez soi, en solo, seul ou avec des amis sur Zoom ou autre.
C'est tout un système qui risque de s'effondrer, avec notamment, on n'en a pas encore parlé, mais la question des bénévoles, parce que 85% des clubs sont animés par des bénévoles. Il y a un club sur deux qui dépend d'une fédération sportive qui est dirigé par un bénévole. Comment faire
un club sur deux qui n'a pas de salariés, voilà, qui est entièrement bénévole.
Comment faire si demain ces bénévoles auront plus la possibilité, parce qu'ils auront plus ce temps-là, parce qu'évidemment c'est aussi ça l'avenir du sport, c'est tous ces citoyens qui vont être touchés au portefeuille et donc auront peut-être plus ce temps-là.
Toucher au portefeuille, toucher à la motivation, toucher au temps.
Bien sûr, bien sûr.
Quelqu'un qui est arrêté 3, 4 mois, 5 mois de son temps de bénévolat aura eu le temps de se réadapter pour faire autre chose. Et peut-être ne retrouvera plus le temps et la motivation à redevenir bénévole si on ne soutient pas et on ne l'incite pas à rester au sein de ce cadre sportif. Donc il y a aussi un risque à ce niveau-là. Et c'est clair, et là je vous cite Bernard Laporte, l'ancien ministre des Sports, qui affirmait que si demain les bénévoles disparaissent, c'est la fin du sport. C'est la fin du tissu associatif sportif.
Ça veut dire que c'est un monde à réinventer. Vous citiez justement le e-sport, enfin les jeux vidéo.
Je pense véritablement que si on veut réussir à fidéliser la jeunesse, à réintroduire une pratique sportive officielle et institutionnelle au sein des clubs, des associations, avec des licenciés et des adhérents auprès de clubs fédérés, en tout cas intégrés à des fédérations, il faut passer par une révolution du système, une modernisation du système, une digitalisation du système. Effectivement, il faudra passer par là. Parce que si on continue comme ça, on va droit dans le mur.
Décryptage sur RFI. Romain Ozoui.
Notre décryptage ce soir consacré au secteur du sport en France qui est frappé de plein fouet par la crise du coronavirus. Emmanuel Macron, le chef de l'État, a fait des annonces aujourd'hui lors d'une visioconférence. En premier lieu, le déblocage de 400 millions d'euros. On en parle avec notre invité Pierre Rondeau, économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Pierre Rondeau, on a beaucoup parlé du sport amateur, évidemment, en premier lieu touché par la crise économique et sociale, on l'a dit. On va évoquer maintenant le sport professionnel, parce que à sa façon, il trinque. Hein, d'une autre manière, évidemment, l'impact financier est moins difficile pour les professionnels, en tout cas les meilleurs sportifs de leur discipline. Mais pour autant, la situation n'est pas évidente. Écoutez le témoignage d'un joueur de tennis, Richard Gasquet, le joueur français qui est 49e au classement mondial. Et il raconte eh bien, ce qu'est aujourd'hui la vie sur le circuit mondial en tennis.
T'as peur à chaque fois, quoi. Voilà, chaque fois que tu fais un test à Saint-Pétersbourg ou au fin fond de partout, tu fais pas le fier quand t'attends le résultat. Donc la vie est complètement différente parce que joueur de tennis, je te dis, j'ai fait énormément de tests, t'en fais tous les 4 jours. Il peut se passer beaucoup de choses, quoi. Ce qui est dur, c'est d'arriver dans le tournoi à chaque fois et voilà, d'avoir 24 heures dans la chambre, tu vois, avec l'attente du test. Et il faut faire gaffe tout le temps. Et t'es à l'abri de rien, quoi. Voilà, t'es pas à l'abri de l'avoir. J'essaie de limiter les rencontres un peu, même si tu t'essayes de vivre un peu normalement, mais c'est pas facile.
Voilà, le joueur de tennis français Richard Gasquet, Pierre Rondeau. Alors, là, évidemment, on n'est pas dans les mêmes conséquences économiques qu'on a évoquées, mais pour les sportifs professionnels, la pandémie de coronavirus a chamboulé beaucoup de choses. En tennis, justement, on va citer Gaël Monfils qui a arrêté sa saison. Il a dit qu'il n'avait plus trop de motivation. Les tests, a évoqué Richard Gasquet, les stades vides aussi. Ouais. Emmanuel Macron, vous l'avez dit, a annoncé aujourd'hui le retour du public, pas avant janvier, avec des jauges réduites. Cette pandémie, elle chamboule les sportifs professionnels.
Totalement la pratique du sport professionnel.
Et c'est pas évident pour eux de s'adapter.
Ah oui.
On estime que parce qu'ils sont moins touchés au portefeuille que les sportifs amateurs, bon, ils s'adapteront bien, mais ça peut chambouler, ça peut détruire peut-être une carrière.
Pour l'instant, c'est clair si on met en avant Richard Gasquet, Gaël Monfils ou des grands tennismans français ou des grands sportifs français comme des joueurs de foot ou des joueurs de rugby, on est en droit de moins s'inquiéter pour eux. Parce qu'en l'état actuel des choses, les clubs n'ont pas fait faillite, les clubs continuent à verser des salaires, ont obtenu des aides, et les joueurs pourront bénéficier d'une rémunération. Maintenant, je ne me cache pas que certains dirigeants sont très inquiets de la situation et de la prolongation de l'état d'urgence, et de la crise sanitaire. Je pense notamment au rugby. Le rugby qui vit essentiellement des recettes de sponsoring et de billetterie, si vous maintenez une saison à huis clos avec des pertes sèches vis-à-vis des partenaires commerciaux, puisqu'ils subissent eux-mêmes la crise économique, le rugby peut aller aussi face à une catastrophe économique. Donc malgré tout, il y a quand même une inquiétude qui pèse, inquiétude économique qui pèse sur les sportifs de haut niveau. Maintenant, au niveau de la réadaptation qui est liée à l'absence de public, c'est vrai que ça peut être très anxiogène, très déprimant pour eux. Par exemple, il y a une étude qui est sortie récemment pour le cadre du football et qui mettait en avant que maintenant que vous jouez des matchs à huis clos sans supporters à domicile ou à l'extérieur, l'effet domicile ne tient plus.
Bien sûr.
L'effet domicile ne tient plus parce que vous n'êtes plus porté par votre public. Et maintenant, finalement, on s'est rendu compte que le niveau de chance entre joie à l'extérieur et joie à domicile n'était plus équivalent comme autrefois.
Et dernière question, parce que aujourd'hui c'est le dilemme qui s'impose au monde professionnel, soit jouer devant des tribunes vides avec des risques de demande de remboursement des abonnés, vous avez évoqué évidemment les problèmes financiers, ou reporter les compétitions, parce que ça arrive aussi dans certains sports, et donc disparaître du paysage.
C'est le problème, et de la même manière les reporter, mais quand? Parce que par exemple, on peut parler des Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été décalés en 2021, on se pose encore aujourd'hui la question, auront-ils lieu en 2021, parce que si on les reporte, c'est quand et jusqu'à quand peut-on accepter, ou en tout cas peut-on anticiper la fin de la pandémie mondiale?
Eh bien merci Pierre Rondeau.
Merci à vous.
Économiste du sport, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'avoir été l'invité de Décryptage qui est maintenant terminé. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Merci à Éléonore Krenik qui était à la préparation de cette émission. Claude Battista et Jérémy Boucher à la réalisation. Merci à la Sonothèque de RFI pour les extraits sonores, à la documentation de Radio France International. Vous pouvez bien sûr réécouter, podcaster cette émission sur notre site www.rfi.fr. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans une poignée de secondes. Ce sera l'heure du débat du jour avec Guillaume Nodin.